Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour deux heures d'info et à la une, l'embrasement à Gaza. L'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem enflamme les territoires palestiniens. Le bilan est lourd, au moins 52 morts, 52 Gazaouis tués et plus de 500 blessés au cours d'affrontements près de la frontière israélienne. C'est la journée la plus meurtrière depuis 2014. Jean-Yves Le Drian appelle l'État hébreu à faire preuve de discernement et de retenue. Dans RTL Soir, nous serons évidemment à Jérusalem avec l'envoyé spécial de RTL, Christophe Decroix. À 18h20, nous demanderons à Leïla Chaïd, l'ex-représentante de la Palestine auprès de l'Union européenne, s'il faut craindre une nouvelle intifada. Le débat tout à l'heure dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
La grève à la SNCF repart comme en 40. La journée sans cheminots a fortement mobilisé. Trafic très perturbé, gros bouchons en région parisienne. Une journée marquée par de multiples incidents, notamment des ruptures de caténaires, actes de malveillance, dit la direction. Pendant ce temps, la consultation des salariés a commencé. La France, championne du monde, mais ce n'est pas glorieux. Nous sommes le pays où on distribue le plus de dividendes aux actionnaires. L'enquête sur l'attentat du quartier Opéra, trois proches de Ramzat Azimov sont toujours en garde à vue ce soir. La loi sur les violences sexuelles à l'Assemblée, les féministes réclament le retrait de l'article 2, censé mieux protéger les mineurs. Elles craignent l'effet inverse. À suivre également un nouvel entraîneur pour le PSG, l'Allemand Thomas Tuchel remplace Unai Emery. Et puis une puce sous la peau pour remplacer le porte-monnaie ou le trousseau de clés. Ce n'est plus de la science-fiction, vous allez l'entendre. La Bourse de Paris, elle termine à l'équilibre ce soir à 5540 points. Les courses à Saint-Cloud, il fallait jouer le 15, le 2, le 12, le 11 et le 16.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, le terroriste du quartier de l'Opéra était donc naturalisé français depuis 8 ans. Alors ces naturalisations, comment ça marche? Sur quels critères devient-on français? Puis direction les coulisses de l'actualité, dégagisme, frotteur, démocrature, infobésité. On connaît maintenant les heureux élus du Robert et du Larousse, cru 2019. On vous amène en coulisses de l'élaboration de nos dictionnaires. 18h30 à Alain Duhamel et ce soir, la polémique des fichiers S. 18h35, Bouglione contre Bouglione. La célèbre famille se déchire entre André Joseph, porte-voix d'un cirque sans animaux, et le reste de la tribu, donc. Le patron du mythique cirque d'hiver, Francesco Bouglione, répond à son cousin ce soir sur RTL et aux défenseurs des animaux. 19h15, on refait le monde. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Marc.
Demain, ça ira mieux sur la moitié nord, tant mieux.
On retrouvera de belles éclaircies après dissipation de la grisaille matinale, avec tout de même un risque d'orage sur un quart nord-est l'après-midi. Dans la moitié sud, vous aurez un ciel lumineux près de la Méditerranée, surtout l'après-midi, avec encore une tramontane forte. Ailleurs, des Pyrénées à la Franche-Comté, un axe pluvieux le matin qui faiblira en cours de journée, avec quand même une activité orageuse possible dans l'après-midi en montagne et en Corse. Quant aux températures, elles seront en hausse dans le nord-est de 19 à 23 et de 12 à 21 degrés ailleurs.
Très bien, tout à l'heure Peggy.
RTL Soir.
Donald Trump a tenu sa promesse, Isabelle, mais son ambassade à Jérusalem fait craindre un nouvel embrasement dans les territoires.
Oui, l'ambassade américaine a été officiellement inaugurée en début d'après-midi. Des milliers de Palestiniens de Gaza s'étaient massés à la frontière pour protester et des affrontements ont éclaté. Le bilan est très lourd, vous le disiez, plus de 50 morts palestiniens, dont 8 enfants et des centaines de blessés. Christophe Decroix, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL dans la ville sainte. Un comité de l'ONU dénonce un usage disproportionné de la force de la part d'Israël.
Oui, pour les Israéliens, ce devait être une fête, une victoire, mais celle-ci se retrouve entachée par les manifestations qui enflamment Gaza et les dizaines de morts palestiniens. À tel point que Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, a dû adapter son discours.
Ceux qui provoquent ces violences font partie du problème et non de la solution.
Que l'inauguration de cette ambassade soit à l'origine de cette flambée de violence, comme l'avaient craint des pays comme la France, ne vient pas à l'idée de Donald Trump qui a adressé un message vidéo.
Les États-Unis seront toujours un très bon ami d'Israël et un partenaire pour la liberté et la paix.
Cette journée est la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, la réplique est légitime.
Nos courageux soldats protègent les frontières d'Israël en ce moment même. Nous vous saluons tous.
Pour lui, l'essentiel de cette journée, c'est avant tout la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale israélienne.
Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et Dieu bénisse Jérusalem. Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible d'Israël.
Indivisible, cela veut dire entièrement israélienne. Et pour bien marquer la présence des États-Unis auprès d'Israël, c'est Ivanka, la fille de Donald Trump, qui a dévoilé la plaque de la nouvelle ambassade.
À Jérusalem, l'envoyé spécial de RTL, Christophe Decroix.
Et ce soir, l'Europe appelle à la plus grande retenue. Le chef de la diplomatie française demande à l'ensemble des acteurs d'éviter un nouvel embrasement au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain, de son côté, réaffirme l'engagement pour la paix, mais sans évoquer les morts de Gaza. Amnesty dénonce une violation abjecte des droits de l'homme.
On en reparle dans un quart d'heure avec l'ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, Leïla Chaïd. Ils avaient appelé à une journée sans cheminots et sans train. Paris gagné pour les syndicats de la SNCF.
Oui, le taux de grévistes a de nouveau bondi à presque 28% aujourd'hui, presque autant qu'au tout début du mouvement. Les trois quarts des conducteurs et des contrôleurs sont à l'arrêt. Résultat, un trafic très perturbé. En Ile-de-France, il faut y ajouter une grève des conducteurs de la RATP, donc des RER en moins. Beaucoup d'usagers se rabattent sur la voiture et ce soir, ça bouchonne sévèrement, Mathilde Vinceneux.
Et oui, c'est compliqué ce soir sur les routes d'Ile-de-France avec plus de 340 km de bouchons, de nombreuses difficultés sur le périphérique parisien, fort ralentissement entre Porte de Saint-Cloud et Porte d'Italie. Il vous faut deux fois plus de temps pour rejoindre la Porte de la Chapelle depuis la Porte d'Auteuil. Pour venir à Paris depuis le sud, là aussi d'importantes perturbations avec une circulation en accordéon à partir de Ouissous sur l'A6B. On compte également 30 minutes de ralentissement sur la N118 entre Janvry et le Petit Clamart. Ailleurs, sur le réseau national, des bouchons dans l'agglomération lilloise, notamment en direction de la capitale sur l'A1. Des complications également sur les périphériques de Lyon et Toulouse.
Le radioguidage RTL est signé ce soir, Mathilde Vinceneux.
Et il n'y a pas que la grève qui perturbe le trafic. En Normandie ou à Marseille, il a fallu compter aussi avec des ruptures de caténaires. La SNCF évoque des actes de malveillance. Une cinquantaine en tout, l'entreprise va porter plainte. Il s'agit, dit-elle, d'un détournement du droit de grève.
Les cheminots ne travaillent pas, mais ils votent, Isabelle.
Oui, la vote-action proposée par les syndicats a débuté aujourd'hui, pour ou contre la réforme ferroviaire. Christophe Pondio, vous avez assisté au scrutin pour RTL à la gare Montparnasse.
Oui, devant l'urne artisanale en carton orange fluo, Sophie s'est déplacée.
J'ai voté.
Cheminote depuis 18 ans, elle vient de cocher contre la réforme du pacte ferroviaire du gouvernement.
C'est pas très compliqué comme question et la réponse était plutôt simple à donner, donc voilà, ça va.
Et cette salariée gréviste se félicite de cette vote-action inédite.
C'est important de s'exprimer, de faire entendre sa voix. C'est vrai que cette possibilité permet à ceux qui ne peuvent pas toujours financièrement être dans l'action de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. C'est un bon moyen de garder la pression. Il serait peut-être temps de comprendre qu'il faut écouter les gens.
Message envoyé au gouvernement et à la direction de la SNCF. Joël tient le bureau de vote et s'apprête à quitter le hall à la recherche de tous les votes de cheminots.
On a ces urnes satellites qu'on appelle des urnes mobiles qui vont aller sur site pour faire voter les gens aussi du terrain qui ne peuvent pas venir, et y compris l'encadrement, voire la très haute direction, parce que ce sont des salariés de la SNCF également.
Quant à Arnaud Marcinkiewicz de la CGT Cheminots Montparnasse, il considère déjà ce vote comme légitime.
Ça ne remplace pas la grève, c'est un plus qu'on leur donne, mais on comptera les points à la fin.
Dépouillement prévu dans une semaine.
À la gare Montparnasse pour RTL, Christophe Ponzio.
La consultation va effectivement durer jusqu'à lundi prochain. La direction estime qu'elle n'aura aucune légitimité. Les suites de Notre-Dame-des-Landes, 15 des 29 projets agricoles déposés par les zadistes ont été jugés éligibles. Les autres demandent un examen complémentaire.
Manifestement, il fait bon être actionnaire en France. Nous sommes les champions du monde en distribution de dividendes.
Oui, c'est ce qu'indique un rapport de l'ONG Oxfam intitulé CAC 40, des profits sans partage. On ne peut pas être plus clair. Concrètement, les groupes du CAC 40 ont reversé plus de la moitié de leurs bénéfices à leurs actionnaires ces dernières années, depuis la crise financière en fait, Martial Youp.
Et oui, heureux comme un actionnaire en France. Un dividende, c'est la somme assortie d'un petit bonus en général que l'on accorde aux actionnaires pour chaque titre qu'ils possèdent. ArcelorMittal, Engie, Veolia, quand toutes ces grandes entreprises cotées faisaient 100 euros de profit, elles en redistribuaient les deux tiers, 67 euros aux actionnaires sous forme de dividendes, 27,50 euros partaient aux investisseurs, et donc sur 100 euros de profit, il en restait 5 tout petits euros pour la participation des salariés. Ce déséquilibre s'est accentué en 10 ans, effectivement, depuis la crise de 2009, parce qu'on a voulu fidéliser les détenteurs de capitaux. Accessoirement, la moitié du salaire des PDG de ces grands groupes est en actions. Ils ont donc tout intérêt à ce qu'on verse de gros dividendes, puisqu'ils sont les plus gros actionnaires de l'entreprise la plupart du temps. Mais pour dégager un maximum de profits financiers, il faut souvent réduire les effectifs, diminuer les coûts en pressurisant les fournisseurs, sans vision stratégique de long terme. La France, ayant finalement peu de gros fonds d'investissement, elle s'est mise au diapason des pratiques américaines en étant plus royalties que leur roi.
Merci Martial Ruyou, chef du service économie de RTL. Ramat Azimov avait-il des complices? Trois proches du terroriste sont toujours en garde à vue ce soir, Isabelle.
Azimov, c'est ce garçon de 20 ans originaire de Tchétchénie qui a attaqué plusieurs passants au couteau hier soir dans le quartier, samedi soir dans le quartier Opéra à Paris. Un jeune homme de 29 ans a été tué et l'assaillant a été abattu. Ses parents sont en garde à vue depuis hier soir. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
L'un de ses amis a également été interpellé à Strasbourg et transféré aujourd'hui au siège de la DGSI près de Paris.
Oui, cet ancien camarade de lycée de Khamzat Arimov est entendu depuis plus de 24 heures maintenant par les enquêteurs du contre-terrorisme. S'il intéresse de près les policiers, c'est parce que les services de renseignement le connaissent bien. Selon nos informations, il est en effet visé par une fiche S pour avoir voulu rejoindre la Syrie il y a quelques mois et il était régulièrement surveillé. Selon plusieurs témoignages recueillis par RTL, c'est lui qui apparaissait comme le plus radicalisé des deux amis. Mais devant les enquêteurs, le jeune homme semble nier ce soir toute implication dans l'attaque de l'Opéra. Il affirme qu'il n'a pas eu de contact récent avec l'assaillant, ce que tâchent de vérifier les policiers grâce notamment à l'analyse de son ordinateur et des téléphones saisis à son domicile.
Précision de Thomas Proutot du service police-justice de RTL.
Garde à vue levée pour Eddie, ce candidat de Koh-Lanta accusé d'avoir agressé sexuellement Candice Bernard pendant le tournage aux îles Fidji, tournage qui a été suspendu la semaine dernière. Le jeune homme a été laissé libre.
On y revient dans le journal de 19h. C'est un texte extrêmement sensible qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée, le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes.
Un texte particulièrement attendu après l'affaire Weinstein, très attendu aussi pour renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, mais précisément un article de ce texte fait polémique, l'article 2. Plus de 250 personnalités ont lancé un appel pour qu'il soit retiré. Il prévoit cet article un nouveau délit, celui d'atteinte sexuelle sur mineurs par pénétration, et les féministes souhaitent, elles, qu'on parle de viol et donc de crime. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes à l'Assemblée pour RTL. Le débat peut sembler technique, mais il est surtout politique.
Oui, pour les associations, le projet de loi du gouvernement ne protège pas assez les mineurs. Pour Clémentine Autain, députée France Insoumise, il ne fallait pas laisser au juge la possibilité de qualifier un acte sur mineur d'atteinte sexuelle, mais parler systématiquement de viol, ce qui entraîne un jugement aux assises.
Le gouvernement a renoncé et nous remet une copie qui n'est ni fait ni à faire, parce que le texte de loi est mal rédigé et le gouvernement essaie de jouer sur les mots.
C'est un faux débat, répond Marlène Schiappa. Dans tous les cas de figure, les agressions sur mineurs de moins de 15 ans seront jugées, que ce soit aux assises ou en correctionnel.
Il y aura dans tous les cas une réponse judiciaire. C'est le but de ce projet de loi. C'est faire en sorte qu'il y ait une réponse et qu'il n'y ait plus d'acquittement.
Le texte spécifie que toute pénétration sur un enfant de moins de 15 ans implique forcément qu'il n'y a pas de consentement. Il s'agira d'un viol jugé aux assises.
À l'Assemblée pour RTL, Marie-Bénédicte Allaire.
RTL soir, 18h12.
On va marquer une pause et dans un instant, le reste de l'actualité. Dans l'actualité, un nouvel entraîneur pour le PSG.
18h13, RTL soir avec Marc-Olivier Fogel et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et c'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du PSG, Isabelle.
Cet Allemand qui a entraîné le Borussia Dortmund remplace l'Espagnol Unai Emery en fin de contrat. Il a signé pour 2 ans, Nicolas Jorgerau.
Oui, Tuchel, entraîneur de 44 ans qui va devenir le premier Allemand à diriger le Paris Saint-Germain. Il a jusqu'ici toujours officié dans son pays natal, Augsbourg, Mayence, puis donc le Borussia Dortmund durant 2 ans. Il remportera notamment une Coupe d'Allemagne en 2017. Alors ce n'est pas le CV le plus clinquant en Europe, mais il incarne cette nouvelle génération d'entraîneurs. Son modèle est Guardiola, avec lequel il a beaucoup échangé ces derniers mois. Une ligne directrice dans son style, c'est le jeu offensif. Le PSG sera son plus grand défi. C'est le 5e entraîneur déjà depuis l'arrivée des propriétaires qataris dans la capitale en 2011. La presse outre-Rhin a indiqué ces dernières heures que Tuchel avait rencontré Neymar hier soir à Paris. L'entraîneur et le joueur souhaitaient évoquer les prochains mois et poser les bases de cette collaboration. Tuchel, très discret à Paris, où il n'a séjourné que quelques heures pour l'instant, depuis les premiers contacts établis, francophile et francophone, il prend des cours depuis plusieurs semaines pour améliorer son français avant de tenir sa première conférence de presse prochainement.
Nicolas Jorgerau du service des sports de RTL.
En tennis, Joe Wilfried Tsonga est forfait pour Roland-Garros. Le français ne s'est pas remis de son opération au genou. Vous l'avez peut-être remarqué, il était parfois difficile de téléphoner aujourd'hui. Fixe ou mobile, les appels entre Orange et les autres opérateurs ont été fortement perturbés, surtout ce matin. Conséquence d'un problème technique qui semble enfin résolu.
La technologie technologie, parfois ça bug. La preuve, parfois c'est un peu magique, comme cet implant électronique qui pourrait remplacer nos clés et nos billets de train.
Oui, ça se passe en Suède. Quelques milliers de personnes avides de nouveautés testent actuellement cette petite puce placée dans leur corps. Fini le badge oublié ou le trousseau perdu. C'est pratique, c'est un peu impressionnant et c'est assez flippant, Sophie Jousselin.
Oui, pratique, car une puce sans contact de la taille d'un grain de riz, théoriquement, ça permet de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec nos badges et cartes sans contact, payer dans les magasins, ouvrir des portes. Awa est une des rares françaises à s'être fait implanter une puce il y a 2 ans. Pour l'instant, elle n'en a qu'une utilisation gadget, mais elle est pleine d'espoir.
Je déverrouille mon téléphone, j'ouvre des applications en posant mon téléphone sur ma main. En 2019, a priori, je pourrais avoir mon pass Navigo dans ma puce et prendre mon métro en passant juste ma main. J'aurais que toutes les cartes que j'ai aujourd'hui dans mon portefeuille puissent être dans ma main. Ma carte bleue, mes cartes de fidélité, tout ça.
Alors déjà, nos téléphones sont de vrais mouchards, nos cartes bancaires aussi. Et donc, Awa, avec sa puce, n'est pas particulièrement inquiète pour sa vie privée.
Il n'y a pas de GPS sur cette puce, donc on ne peut pas me suivre. Il n'y a que moi qui puisse lire les informations, il n'y a que moi qui puisse interagir avec. Mes données, elles sont protégées. Parce que j'ai un mot de passe et parce qu'on est très très peu nombreux à avoir une puce dans la main. Donc j'ai pas peur dans le métro que quelqu'un à côté de moi essaye de passer un lecteur sur ma main.
Voilà, c'est le point positif. On a quand même moins de risques de perdre sa puce ou de se la faire voler que c'est son sûr. Téléphone ou sa carte bancaire.
Moi j'en veux pas. Merci Sophie Jousselin, spécialiste nouvelle technologie d'Artel. Vous non plus, Adèle ?
Ah non.
Vous,
moi, j'en veux une, oui.
Vous en voulez une, hein ?
Ouais.
Ah oui, bon, mais il en fallait bien une, ça tombe sur vous.
Ça tombe bien, c'est la spécialiste.
Vous revenez, Isabelle, vous, à 18h30, sans plus. Donc à tout à l'heure.